Et puis, pour vous remonter un peu le moral, eh bien, on va faire un tour du côté du CHU de Toulouse. Alors, il y a quelques semaines ou mois, je vous avais fait une émission pour vous alerter un peu sur l'état de délabrement du CHU de Rangueil. Eh bien, figurez-vous que j'ai testé pour vous, j'y suis allée faire un petit tour et je me suis bien rassurée en voyant que tout avait été rénové. Il y a encore des travaux en cours, j'ai entendu quelques marteaux-piqueurs depuis ma chambre, mais la rénovation a été faite de façon très très intelligente. Par exemple, une chose toute bête, les poussières et autres saletés partout, chez vous, chez moi, à Canal et ailleurs, s'accumulent dans l'angle entre le mur et le sol, c'est-à-dire le long des plinthes. Eh bien, partout chez vous, chez moi, mais pas à Rangueil, parce que maintenant, les plinthes sont creuses et arrondies, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas se stocker dans l'interstice entre le mur et le sol. C'est impossible. Donc, les maladies nosocomiales, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup à Rangueil. Voilà. Alors ça, c'est pour se réconcilier avec Rangueil. Et puis maintenant, de bonnes nouvelles qui vont faire plaisir à toutes les femmes enceintes. Voilà, voilà, écoutez donc. À Toulouse, une base de données pour protéger les femmes enceintes. Alors ça, ça sort bien entendu, comme souvent, de Médiacité, que nous remercions encore de leur aimable autorisation à vous lire leurs articles. Le registre du CHU de Toulouse est unique en France. Il évalue les effets indésirables des médicaments pris par les femmes en Haute-Garonne pendant leur grossesse, dans le but de pallier le manque d'informations sur les risques pour leur santé et aussi pour celle de leur bébé. L'article est signé Rosaine Le Saint. 9 mois de grossesse et au moins 9 médicaments. Les femmes enceintes de Haute-Garonne prennent au moins un remède différent à chaque mois de leur grossesse. Et encore, c'est sans compter ce qu'elles achètent en pharmacie sans prescription. Le chiffre paraît exagéré. Il est pourtant conforme à la moyenne nationale, car la France est championne d'Europe des cachetons pendant la gestation. Paracétamol, fer, acide folique, etc., etc. En faisant le compte, on y arrive vite. Le record d'une résidente de Haute-Garonne, 79 traitements différents. En l'an 2000, pour près de 80% des médicaments pris par les femmes enceintes, il n'y avait pas de données réelles d'évaluation sur les éventuels effets indésirables, déplore Christine Damas-Michel, praticienne hospitalière au CHU de Toulouse. Il n'y a pas d'essais cliniques pour vérifier dangerosité ou tolérance d'un traitement sur celle qui porte un enfant. C'est trop risqué. Pour remédier à ce périlleux angle mort, la maître de conférence à l'université Paul Sabatier lance en 2004 une étude de grande ampleur, sans précédent en France. Elle répertorie tous les remèdes prescrits pendant la grossesse aux futures mamans du département. Nom de code Ephéméris pour évaluation chez la femme enceinte des médicaments et de leurs risques. Alors, palmarès des meilleures ventes de médicaments dans le département. Cette base, sans équivalent, recueille les données de plus de 135 000 volontaires. De quoi réaliser le palmarès des médicaments les plus vendus en pharmacie, révélé ci-dessous par Médiacité. Et détecter d'éventuelles surconsommations de comprimés, ainsi que leur dangerosité. L'équipe médicaments, reproduction, grossesse et allaitement du CHU a fait le choix de l'indépendance. Ses financements sont exclusivement publics, exit donc les multiples sollicitations de l'industrie pharmaceutique. La plupart des résultats de ces recherches, comme sur le SpaceFond par exemple, dans le top 5 du classement, sont rassurants. En revanche, il y a lieu de s'inquiéter pour les prescriptions du fer, par exemple, qui, quand il est donné de façon systématique aux femmes enceintes françaises, par habitude, même quand le taux d'hémoglobine n'est pas très bas, ce taux de fer, s'il est supérieur à la normale, dans l'organisme peut provoquer de l'hypertension artérielle ou des accouchements prématurés. Comme le mettait en garde la médecin généraliste Maddy de Nantes lors de la conférence du journal indépendant Prescrire, célébrissime et ô combien sérieux, sur la médicalisation des femmes enceintes le 31 janvier à Paris. Le but de ce travail est bien sûr d'éviter de nouveaux scandales comme celui de la Dépakine. À la tribune également, Marine Martin, la lanceuse d'alerte de l'affaire de la Dépakine, est venue des Pyrénées-Orientales. Cet anti-épileptique, la Dépakine, commercialisée par Sanofi, provoque des malformations et des risques d'autisme pour les bébés dont les mamans ont suivi ce traitement pendant leur grossesse. Cette mère courage salue l'initiative toulousaine. Ces études permettront d'éviter des scandales à venir, affirme-t-elle. Ephéméris fournit des informations sur l'état de santé des poupons jusqu'à leurs 2 ans. Or, l'autisme se détecte plus tard. En 2010, la même équipe du CHU a donc décidé de créer une deuxième base de données baptisée POM, comme prescription médicaments, mère, enfant. Elle répertorie les traitements avalés par les femmes enceintes, mais aussi 8 000 bambins jusqu'à leurs 8 ans. Ceci pour établir un lien entre les remèdes pris à la maternité et la santé de leur progéniture à plus long terme. Création d'un premier réseau national de pharmacovigilance au cours de la grossesse. Une bourse de la Fondation pour la recherche médicale a permis de réaliser en 2016 une étude sur les risques d'infection pendant la première année de vie après une exposition in utero de médicaments immunosuppresseurs. Les chercheuses ont découvert que lorsque les mères ont pris ces médicaments pendant leur grossesse, le risque d'infection de leurs enfants, rendu plus fragile, est plus important. Conséquence, ils prennent davantage d'antibiotiques que les autres enfants. En octobre 2018, l'Agence du médicament a choisi l'équipe toulousaine pour assurer la mise en place de REGARD, le premier réseau national d'experts dans le domaine de l'exposition médicamenteuse au cours de la grossesse. Et ce premier réseau doit voir le jour en 2019. En cas de doute, les professionnels de santé sont toujours invités à appeler les centres régionaux de pharmacovigilance, antennes locales de l'Agence du médicament, qui recensent les alertes sur leurs effets indésirables. Quand il s'agit de questions sur les prescriptions à des femmes enceintes, c'est l'équipe Médicaments, reproduction, grossesse et allaitement du CHU de Toulouse, équipe auteur des bases Ephéméris et POM, qui leur répondent. Son expertise est si rare qu'il lui arrive même de recevoir des coups de fil de Belgique et même du Vietnam. Vous voyez que c'est tout à fait important et que c'est apprécié, on peut dire, mondialement. Alors, les médicaments, les principaux médicaments qui sont utilisés par les femmes enceintes, ben là, il y en a une dizaine. Alors, le premier, celui qui est utilisé par le plus de futures mamans, eh ben, c'est le paracétamol, hein, Efferalgan et autres. Alors, vous avez peut-être, je l'espère, lu la notice du paracétamol. On vous dit de le prendre à des espaces de 4 heures. Eh bien, ne vous amusez pas à faire moins que ça, à le prendre toutes les 2 heures, par exemple. Moi, j'en ai pris par erreur, un jour où j'étais vraiment très, très mal et je n'étais pas chez moi. J'en ai pris 2 à la fois, on me l'avait donné et je ne savais pas que c'était du 1 gramme. Eh bien, j'ai eu une syncope, tout bêtement. Alors, ça a donc un effet cardiaque très dangereux. Donc, ne vous bourrez pas de paracétamol, hein, ça a l'air innocent et ça ne l'est pas du tout. Alors, le fer, on en a déjà parlé tout à l'heure, si on consomme trop de fer, on risque donc un accouchement prématuré. Et une hausse du rythme cardiaque. L'acide folique, oui, on recommande beaucoup l'acide folique, la vitamine B9, pour éviter les malformations du fœtus, les malformations du système nerveux du fœtus. Donc, c'est préventif. On indique aussi beaucoup le fluoroglucinol, c'est le spasfon, hein, le spasfon qui est en vente libre et qui est assez efficace, il faut reconnaître, contre toutes les contractions et les problèmes, les contractions utérines, intestinales, urinaires, etc. Le spasfon, on l'a beaucoup pisté parce que sa consommation est très importante. Il y a 40% des femmes enceintes qui en consomment, mais on n'a pas trouvé grand-chose contre ce médicament-là. Vous avez aussi la vitamine D contre l'ostéoporose et le rachitisme. Alors ça, la vitamine D est commercialisée principalement sous le nom de Zimad. Il y a plus de 30% des femmes enceintes qui en consomment. Apparemment, il n'y a pas trop de contre-indications, mais l'excès en tout est un défaut. Donc, faire attention quand même. Alors, autre chose qui est beaucoup plus problématique, c'est l'amoxicilline, antibiotiques, comme chacun sait, pour les problèmes urinaires, pour les problèmes d'ORL et les problèmes pulmonaires. Mais bon, l'amoxicilline, antibiotique, plus on prend d'antibiotiques, surtout quand on est enceinte, comme on l'a lu tout à l'heure, plus l'enfant sera affaibli. Le bicarbonate de soude, vous avez 20% des futures mamans à qui on conseille le bicarbonate de soude. Le bicarbonate a plein de vertus, en particulier pour les problèmes d'intestin, pour les problèmes cardiaques. On en met souvent dans la cuisine pour faire cuire en particulier tout ce qui se cuit avec qui se cuit sous ébullition, pour faire cuire les pâtes, les pommes de terre, etc. Ça permet de cuire plus rapidement. Là, on ne trouve pas non plus de critiques trop effrayantes. Vous avez aussi les sirops pour la toux. J'ai Elicidine, on me dit là. Oui, les sirops pour la toux, on sait que souvent il y a des somnifères à l'intérieur, donc il faut les éviter. Mais je ne sais pas s'il y en a dans Elicidine. Vous avez encore de l'alginate de sodium, ce qui est commercialisé sous le nom de Gaviscon. C'est contre les brûlures d'estomac, les reflux œsophagiens, etc., tout ce qui n'est pas confortable du tout. Je n'ai pas les statistiques de consommation. Si je les ai, ça fait presque 18% des femmes enceintes qui en consomment, mais je ne sais pas si c'est très... Si c'est fortement signalé comme inconvénient, je n'ai pas les statistiques de défense. Et il y a aussi, contre les mycoses, l'éconazole, qui est commercialisé sous le nom de P-Varil, consommé par plus de 17% aussi des futures mamans. Donc vous voyez qu'il y a une belle batterie de chimithérapie, de chimiothérapie, que l'on ordonne, c'est le cas de dire, aux femmes enceintes. Mais ma foi, je crois que moins on en consomme et mieux ça vaut. Et bien maintenant, on reste à Toulouse et on va jeter un coup d'œil sur l'histoire, L'histoire de l'information dans la région toulousaine et dans le Midi. Donc l'histoire de la dépêche du Midi. Alors, Médiacité nous a fait un bel article il y a quelques semaines, voire quelques mois. La dépêche du Midi, les fils Baylet prennent le pouvoir. Article de Sylvain Morvan. Jean-Michel Baylet a placé ses fils, Jean-Nicolas et Jean-Benoît, au poste de directeur général et directeur général adjoint de la dépêche du Midi. Une page se tourne progressivement dans l'entreprise. Même si les deux frères n'ont en rien rompu avec les méthodes décriées de la dynastie Baylet. En entrant au gouvernement de Manuel Valls en février 2016, Jean-Michel Baylet avait cédé la présidence de la dépêche à son ex-épouse Marie-France Marchand-Baylet. Libéré de ses fonctions ministérielles en mai dernier, le septuagénaire a aussitôt repris la tête du groupe. Dans la foulée, en septembre dernier, le plus jeune de ses trois enfants, Jean-Benoît Baylet, a été propulsé au poste de directeur général adjoint, juste avant ses 30 ans. Un poste qu'avait déjà occupé de 2012 à 2014 l'autre fiston, Jean-Nicolas, avant de devenir le directeur général de la société. C'est donc une troisième génération de Baylet qui s'installe au sommet de l'organigramme du quotidien, assurant à la famille un règne sans partage sur l'information régionale pour de longues années encore. Jean-Nicolas, successeur désigné de Jean-Michel Baylet à la tête du journal. Dans un parcours professionnel, être le fils du baron local, ça aide. Après avoir étudié à l'école de commerce de Lyon et effectué un stage dans la banque Natixis à New York, Jean-Nicolas a fait ses premières armes en 2009 dans une filiale en Argentine du groupe pharmaceutique Pierre Fabre, lequel est actionnaire de la dépêche du Midi. Et moi, il va falloir que je prenne des médicaments, hein, même si je vous dis de ne pas le faire. Actionnaire de la dépêche du Midi, Pierre Fabre, aux côtés de la famille Baylet. Jean-Michel est venu rendre visite à son fils en Amérique du Sud. « Il est temps de rentrer à la maison », qu'il a dit le Jean-Michel. À son retour, en janvier 2011, à 26 ans, Jean-Nicolas Baylet est catapulté au poste de directeur délégué. Pour prendre ses marques dans le groupe, il suit d'abord une sorte de parcours initiatique qui consiste à faire le tour de tous les services, publicité, imprimerie, rédaction, etc., pendant un an. En Argentine, Jean-Nicolas a aussi rencontré son épouse. À 18 ans, la jeune femme a quitté Buenos Aires pour suivre Jean-Nicolas à Toulouse. Il lui faut trouver un travail. Pas de problème. Le 30 septembre 2015, le comité d'entreprise est consulté sur l'embauche d'une salariée en contrat de qualification. Il s'agit d'un contrat en alternance pour près de 1200 heures sur une année. À la Dépêche Interactive, filiale du groupe pour les activités sur Internet, rémunérée à 80% du SMIC. Lors de la présentation du dossier, selon les syndicats, Jean-Nicolas ne pipe pas un mot sur ses liens avec la jeune femme. Il feigne donc de ne rien savoir, les syndicats, et lui joue un tour. « Je sais que la dépêche s'en tient à la base légale de rémunération quant à ce type de contrat. Pourtant, elle pourrait s'enorgueillir d'aller au-delà, car ce n'est pas avec un salaire de 80% du SMIC qu'on peut subvenir à ses besoins. J'espère que la famille de cette jeune personne peut la soutenir pour assurer son quotidien. » On dit les syndicats. En commission. Jean-Nicolas a baissé le nez et est resté muet. C'est un piètre négociateur. Dès qu'il est en difficulté, il se replie dans sa coquille, raille un ancien représentant syndical. Il ne veut pas traiter avec nous et préfère envoyer le directeur des ressources humaines ou un autre cadre au comité d'entreprise. Évelyne Jean-Bailette venait tout le temps, jusqu'à ses 80 ans. Jean-Michel Bailette, lui, ne veut pas s'embêter à y aller systématiquement comme l'avait fait sa mère. Il ne se déplace qu'une fois par an, pour l'examen des comptes, ou quand il y a des grandes grèves dans le groupe. Jean-Nicolas a pris le même pli. Il le payera un jour, car il s'isole de ses salariés. Olivier Saint-Pello, délégué du Syndicat national des journalistes, le SNJ, confirme. Il y a près de 2 ans, nous nous sommes fâchés au sujet des droits d'auteur versés aux journalistes. Depuis, on ne le voit plus au comité d'entreprise. L'un des principaux chantiers du jeune directeur général de 33 ans, c'est d'enclencher le virage multimédia du journal, à l'heure où la presse écrite est mise au défi du web. Il aurait fallu mener une vraie politique d'investissement sur ladépêche.fr. Or, le site n'apporte rien de plus que le papier, hormis un petit journal vidéo créé pour les abonnés premium. Olivier Saint-Pello commente. Pour l'instant, le développement du modèle numérique payant à la Dépêche du Midi pour compenser la baisse du journal papier, c'est un fiasco. Aujourd'hui, la Dépêche compte 5000 abonnés premium avec accès aux éditions numériques du journal, selon Jean-Nicolas Bailet. Mais 4200 selon le délégué du SNJ, et 3000 abonnés à l'offre Digital Plus, qui donne un accès illimité à ladépêche.fr. Mais seulement 2000, prétend le délégué SNJ. La diminution des revenus liés à la baisse des ventes du journal papier n'est pas compensée par le numérique, reconnaît Jean-Nicolas Bailet. La situation est la même chez nos confrères. La notion de gratuité sur le web est fortement ancrée chez les lecteurs. Le directeur général mise notamment sur le business de la data, soit l'exploitation des données des utilisateurs des sites du groupe La Dépêche du Midi, pour compenser la baisse du nombre d'abonnés et des ventes en kiosque. Il parie aussi sur la diversification des activités du groupe. Et on va voir qu'il y a diversification. Et la politique ? Patron de presse, mais aussi successivement député, sénateur et ministre, l'insatiable Jean-Michel Baylet empilait les pouvoirs. Jean-Nicolas, plutôt, tranche net, lui. « Ça me tente pas. Je suis très épanoui dans mon métier. Ce n'est pas moi le politique, c'est plutôt lui. » Lui, c'est le frère, c'est Jean-Benoît Baylet. En 2011, le Benjamin de la famille a obtenu un Master 2 de sciences politiques, spécialité vie publique et relations institutionnelles, à Paris 2 Panthéon-Assas. En 2014, dans son livre intitulé « Les barons, ces élus qui osent tout », le journaliste Jean-Baptiste Forêt s'interrogeait sur la partition de l'Empire. À Jean-Nicolas Baylet, les activités de presse, et à son demi-frère Jean-Benoît, les mandats ? Problème. L'héritage politique familial dans le Tarn et Garonne s'est réduit à peau de chagrin. En 2014, Jean-Michel Baylet est battu aux élections sénatoriales dans son fief. En 2015, il renonce à se représenter à la présidence du conseil départemental, sachant qu'il n'a aucune chance. Le potentat local demeure le président de la modeste communauté de communes des deux rives. Pas sûr que le nom de famille, affaibli par les condamnations pour abus de biens sociaux, diffamation, injures et autres affaires délicates impliquant Jean-Michel Baylet, selon BuzzFeed, il a été visé par une plainte pour violence en 2002, assez croquignolesque, soldé par une transaction secrète. On doute donc que le nom de famille, dans ce cas-là, soit encore très porteur. Jean-Benoît Baylet, intéressé par la politique et la chose publique. En 2008, Jean-Benoît a refusé de devenir conseiller municipal à Valence d'Agen, où son grand-père, sa grand-mère et son père ont porté successivement l'écharpe tricolore. « Je n'avais pas envie de m'engager à ce moment-là », confesse-t-il. « Et aujourd'hui ? » ?»« J'ai fait le choix de faire ma carrière dans l'entreprise. Je me focalise là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas ce qui se passe. Je m'intéresse toujours à la politique et à la chose publique. » En attendant l'éventuelle partition de l'Empire, ou refroidi par les revers électoraux du papa, Jean-Benoît a donc été recasé dans les pattes de son frère, au sein de l'entreprise familiale. Il s'est plié, comme Jean-Nicolas, à l'exercice du parcours initiatique parmi les services. Jean-Michel Baylet avait été moqué à ses débuts à la Dépêche du Midi en 72, dans un journal alors dirigé par Evelyne Jean Baylet. « Fils à maman, veau sous la mer !» Les mêmes colibés circulent déjà chez certains salariés pour évoquer Jean-Benoît, unique fils de l'éphémère présidente du groupe Marie-France Marchand Baylet. Il a assisté à quelques comités d'entreprise, mais sans ouvrir la bouche, en restant plongé dans son smartphone. Note Olivier Sampello, un salarié retraité. Pendant les réunions de rédaction, il s'est contenté la plupart du temps d'abonder dans le sens du rédacteur en chef Jean-Claude Souléry. Pour le moment, il n'apporte pas grand-chose, mais je me méfie de mes propres jugements. À ses débuts, peu voyait en effet Jean-Michel Baylet mener une telle carrière. Le 2 décembre 2016, en pleine mode du mannequin challenge, qui consiste à se filmer en restant immobile, la Dépêche du Midi postait sur son site internet une vidéo regroupant plus de 100 salariés du groupe. Au bout d'une poignée de secondes, on aperçoit Jean-Nicolas Baillette feignant de passer l'aspirateur et Jean-Benoît Baillette le plumeau dans le bureau qu'ils partagent. La vidéo a probablement fait rire quelques salariés, mais elle en a aussi froissé certains. Dans un contexte de casse sociale, on a aussitôt pensé qu'il s'agissait d'une métaphore pour montrer qu'ils font le ménage dans le groupe en se débarrassant de nombreux employés, assure l'un d'entre eux encore amer. Derrière la maladresse, l'anecdote est révélatrice. Car si la nouvelle génération a apporté une apparente modernité, la vieille entreprise familiale demeure très critiquée pour ses méthodes sociales. Entre le début de 2015 et la fin de 2018, ce sont environ 355 emplois qui sont ou seront supprimés dans le groupe selon le syndicat des journalistes. On fait le constat de la baisse de nos revenus. On doit s'adapter à cette réalité, répond froidement Jean-Benoît Baillet. Les syndicats contestent aussi la précarisation des journalistes. Récemment, 10 journalistes ont été embauchés pour travailler dans les rédactions de la Dépêche. Mais ils l'ont été sous statut d'agence de presse, via la filiale La Dépêche News, ce qui les prive de la grille salariale du journal. Ils touchent ainsi un salaire inférieur de 30% environ à celui de leurs confrères. Pour un journal qui défend les valeurs de solidarité et d'humanisme, on a vu mieux. Les 2 trentenaires, eux, sont mieux lotis, rassurez-vous. En raison de leur position dans l'organigramme du groupe, on peut logiquement penser que leurs émoluments dépassent le salaire annuel moyen des 10 personnes les mieux rémunérées, qui s'élève tout de même à 189 711 euros annuels, selon les comptes 2016 de la Dépêche. Mais les critiques les plus récurrentes portent sur le contenu d'un journal dont les pages serviraient en partie à défendre les intérêts économiques et politiques de la famille. Personne n'a oublié l'affaire Baudis, du nom de l'ennemi juré de Baillet, accusé en 2003 d'être le complice d'un tueur en série. À l'époque, la Dépêche, première à publier un article sur le dossier, fut le fer de lance de sordides attaques contre l'ex-maire centriste de Toulouse, totalement innocenté par la suite, écrit Libby Cousteau dans l'Express. Aujourd'hui encore, plusieurs élus rivaux de Jean-Michel Baillet, notamment le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenque, se plaignent du traitement qui leur est réservé dans le journal. Le sénateur LR de Tarn-et-Garonne, François Bonhomme, a battu Baillet lors des élections sénatoriales de 2014. Mais soupir, on ne parle de moi que quand je ne traverse pas dans les clous. Rien n'a changé. La brouille avec le festival Jazz in Marciac, révélé par Laurent Dubois de France 3 Midi-Pyrénées, est un exemple plus récent. Le 25 juillet 2015, Manuel Valls assiste au festival gersois. Jean-Nicolas Baillet est présent, mais relégué en dehors des premières places. Colère volcanique du père Jean-Michel, qui vole au secours de l'ego froissé de son fils. Dans la famille Baillet, on ne badine pas avec les feux de la rampe et les fauteuils, donc, de prestige. Les premiers mauvais articles tombent. Il faut dire que le festival a aussi rompu son partenariat avec la Dépêche, qui gérait notamment la localisation de la sono et de la scène. La famille règle-t-elle ses comptes avec cet événement culturel majeur de la région par article interposé? Jean-Nicolas Baillet soutient mordicus que cet épisode n'a pas eu d'influence sur le contenu du journal. la dépêche de midi. N'hésite pas non plus à faire, en toute discrétion, la promotion des filiales du groupe. Nombreux sont les exemples accréditant l'idée d'un journal au service des intérêts économiques de la famille Baylet. Comme cet article du 8 novembre 2016, rangé dans la rubrique « Actualité ». Une envie de sushi, de burger, de cuisine traditionnelle ou encore de cuisine du monde. Le site toulouseadomicile.fr vous livre 40 enseignes toulousaines à domicile. Et plus loin. La société est arrivée à séduire des milliers de clients grâce à des produits de grande qualité, et ce, en seulement une année d'activité. Le journal n'a pas jugé bon de préciser que ce service appartient au Baylet, via la société La Dépêche Interactive. Affiliée à la même société du groupe, la plateforme Photogo fait l'objet de plusieurs papiers élogieux sur le site, dans un curieux mélange des genres entre info et publicité.
Il manquerait plus qu'un groupe ne fasse pas sa propre promotion, s'offusque Jean-Benoît.
Que nos souvenirs nous attachent à certains lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part. Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux, y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains. Ma ville est la plus belle des villes, la plus belle des villes, la plus belle. C'est une cité bigarrée, blanc, jaune et noir sont mélangés. Mais on s'est arrangé pour qu'ils se partagent qu'un seul quartier. Ici la démocratie est dans la rue, je te jure. Même si ça fait 20 ans qu'à la mairie y a la même enflure. La même enflure. Que de jolies rues, de petits trottoirs dans ma ville. Chacun sa voiture, sa bagnole, son automobile. Tout le monde plaisante, cool, sympathique. Voyez comme sont mignons les petits commerçants et leurs flics. Quelle chance, quel bonheur d'être né dans cette ville. La culture rayonne sur un bon paquet d'imbéciles. L'économie est florissante grâce aux industries polluantes. Mais comme ça crée du turbin, tout le monde applaudit dès demain. C'est la joie dans ma ville, la joie de vivre tranquille. Boire en bois de l'alcool.
Oh, wow, il joue au football.
Bah tu parles d'un particularisme régional. Pour les causes, si c'est ça, moi je me jette dans le canal. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains. Ma ville est la plus belle des villes. Paraît-il qu'il faudrait retrouver nos racines et savoir d'abord d'où on vient pour savoir qui on est. Ça vaut peut-être le coup pour les Indiens, les exilés. Mais toi fais pas ton malin, je t'ai toujours vu dans le quartier. Une fois vomi ton pastis et pété ton cassoulet. Une fois que les légendes celtiques te feront plus planer. Une fois que t'auras fini d'applaudir au corrida. Quand tu sauras bien d'où tu viens.
D'où tu viens.
Peut-être qu'enfin.
Enfin.
On pourra se demander où on va. Alors que certains invoquent la liberté d'expression pour que renaisse l'usage du langage de leur région. Moi j'en perds mon latin, mais ajoute sans rire, finalement pas toi ou français. La question est, qu'est-ce que t'as de beau à nous dire? Hein? Hein? Je chante avec l'accent, c'est beaucoup plus sympathique. Non pas que je l'ai vraiment, mais ça plaît tellement au public. Je chante avec l'accent des enfants du pays. Ces enfants qui pourtant comprennent rien à ce que je dis. Je chante avec l'accent, je suis un chanteur d'ici. Mais ton succès pourtant, tu te l'es fait à Paris. À Paris, la critique est branchée musique ethnique. Même si les flics n'aiment pas trop les voix exotiques.
Y'a pas à dire, ces provinciaux, c'est comme les noirs africains. Ils ont le rythme dans la peau, c'est assez nouveau, j'aime bien. Puis au moins, pendant qu'ils s'occupent de leur petit pays, on fait leur l'enveloppe des marchands sans leur demander leur avis.
Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Sinon on se fera l'oseille avec celui de Toulouse.
Comme un peu-t-on confondra ce point.
Le trou d'un cul
et celui d'un nombril pour chanter comme le font, comme le font les copains.
Ma ville,
ma ville
est la plus belle des villes, 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 villes.
Ben bien sûr.
Victoria Bailey a quitté le groupe La Dépêche du Midi. Le tableau ne serait pas complet sans évoquer la grande sœur, Victoria. De novembre 2012 à mai 2013, elle a été secrétaire adjointe de la Fondation La Dépêche, structure à vocation sociale et éducative, présidée par Marie-France Marchand-Bailey. Selon plusieurs sources internes, elle aurait claqué la porte de la fondation suite à un conflit avec sa belle-mère. En 2015, Victoria est embauchée en tant que chargée de mission au Comité régional du tourisme, une structure dont le président était à l'époque Philippe Guérin, élu PRG bien sûr, comme son père Jean-Michel Bailey. Cette famille a décidément plein de ressources. Et puis voilà l'autre héritier. La Dépêche a un autre héritier. Éric Lafont, fils de Martine Bailey et donc neveu de Jean-Michel Bailey. Sur le papier, il est incontournable. L'Occitane de communication, holding familial, qui possède la très grande majorité des parts du groupe La Dépêche du Midi, est détenu à 52,5% par Jean-Michel Bailey et à 47,5% en commun par Martine Bailey et son fils, administrateur délégué du groupe. De 2008 et 2012, il s'occupait du pilotage des marques selon son profil LinkedIn. Ensuite, il a eu la charge de l'animation du pôle économique du groupe jusqu'en janvier 2015. Désormais, son rôle se cantonne aux relations extérieures et à la communication. Il écume les cérémonies d'inauguration, les foires, les salons, les courses cyclistes régionales, les pots de fleurs, et documente ses pérégrinations sur son compte Twitter. Selon plusieurs salariés, les ascensions fulgurantes de Jean-Nicolas et Jean-Benoît Bailey ont contribué à le marginaliser. À 71 ans, Jean-Michel Bailey reste un homme très influent. Le Fonds stratégique pour le développement de la presse, FSDP, géré par le ministère de la Culture et de la Communication, vient d'accorder au journal Midi Libre, qu'il détient depuis 2015, une subvention de plus de 3,4 millions d'euros pour une nouvelle imprimerie qui en coûtera 6 millions d'euros. Un beau cadeau fait à l'ancien ministre, également propriétaire de La Dépêche du Midi. Pour ce gros coup de pouce, l'État n'a pas hésité à piétiner la réglementation et ses propres principes, nous explique le journal La Lettre A, dans un article publié le 1er octobre. Pourquoi une telle aide, d'un montant aussi exceptionnel? Selon La Lettre A, il s'agirait d'une faveur décidée au sommet de l'État. La Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture était opposée à cette subvention, ou tout au moins très réticente. La pression serait venue de Bercy, et probablement de plus haut. Midi Libre est détenu, comme La Dépêche, par Jean-Michel Bailey, dont on connaît bien le poids politique dans la région, et qui sait parler à l'oreille de Macron. La preuve que Jean-Michel Bailey reste un homme qui compte, si ses fils Jean-Nicolas et Jean-Benoît montent en puissance petit à petit au sein du groupe La Dépêche du Midi, Jean-Michel Bailey a pris récemment la tête du puissant lobby de l'Alliance de la presse d'information générale, APIG. Le montant maximum d'une aide de l'État via le FSDP dont on parlait tout à l'heure est normalement 1,5 million d'euros. Et aucune subvention ne doit dépasser, en principe, 20% du montant total du fonds. Qu'à cela ne tienne, pour sa nouvelle imprimerie, le Midi Libre a présenté un projet collectif en s'associant avec des petits journaux de presse hebdomadaire régionale, comme le bulletin d'Espalion, la Semaine des Pyrénées, l'édition du Tarn-et-Garonne du Courrier français et le journal d'ici, ce qui lui permet de dépasser le plafond de 1,5 million. Résultat, selon la lettre A, sur les 9 millions de subventions disponibles cette année pour soutenir les médias via le Fonds stratégique pour le développement de la presse, l'aide accordée à Midi Libre atteint 38% du total, soit 3,4 millions d'euros. Tralalère.